Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
De la responsabilité aux charges constitutionnelles du président de la République, nous en parlons dans Droit et citoyenneté d'aujourd'hui. Que dit la loi fondamentale concernant les responsabilités, les charges qui incombent au président de la République? De qui répond-il de ses actes et avec quelles sanctions? Pourquoi l'appelle-t-on garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, symbole de l'unité nationale? Dans quelle mesure peut-on lui ôter ses épithètes? Quelques mots sur les élections avec profil idéal du président de la République. Le magazine de promotion de vos droits et devoirs se penche sur cette problématique à la veille des élections. Nous recevons principalement les professeurs de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa, Léopold Kondaluko et Jacques Joly, député national. Et dans la seconde partie de ce magazine, nous recevons quelques députés nationaux et avocats qui s'expriment sur les responsabilités constitutionnelles et les prérogatives du président de la République par rapport au premier ministre qui devait répondre à la gestion du pays, comment et devant qui. Je suis Jeff Ngoyi Mulonda, excellente écoute à tous. Que dit la loi fondamentale concernant les responsabilités, les charges qui incombent au président de la République, professeur Jacques Joly, député national.
Jeff Ngoyi, merci pour nous confier à cette énième réflexion sur la quintessence de nos institutions à ce moment crucial de choix politique majeur pour les cinq ans à venir. Il faudra savoir que cette question doit être appréhendée sur le niveau purement textuel, c'est-à-dire de la constitution écrite, mais aussi au niveau de l'éthos, c'est-à-dire de la pensée et de l'agir et de la représentation des citoyens. En ce qui concerne la loi fondamentale elle-même, il faut dire que sur les 229 articles concernant la constitution, au moins 40 articles, donc plus de quart des articles de la constitution abordent la fonction présidentielle. Plus particulièrement dans les titres 3 de l'organisation de l'exercice du pouvoir, des articles 68 et suivants, on parle donc de cette institution. C'est donc une institution qui est la clé de voûte de notre architecture organisationnelle. C'est une institution qui joue un rôle central, c'est pourquoi je parle de la centralité de la fonction présidentielle. Il faudrait savoir donc que c'est la seule institution qui est élue au suffrage universel direct, donc c'est toute la population qui intervient dans le choix du président. Donc, et c'est une institution à une seule personne, le président de la République. Donc ce n'est pas la présidence, ce n'est pas l'Assemblée, ce n'est pas le Conseil, c'est le président de la République. C'est donc une institution monopersonnelle. Et cette personne joue donc, comme je l'ai dit, le rôle très important. Si nous prenons l'article 69, et d'abord l'article 68, ça se trouve à la tête des quatre institutions, à l'article 68 et l'article 69, fait du président le représentant de la nation, le symbole de l'unité, c'est lui qui est le gardien de la constitution et assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il assure la continuité de l'État, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Donc cette institution se trouve être l'alpha et l'oméga de notre institution, et vous pouvez donc vous imaginer cette grande responsabilité du chef de l'État. Au-delà de cela, comme je l'ai dit, dans l'agir politique depuis 1960, que ce soit le président Kassavubu, les 32 ans du président Mobutu, les 18 ans du président Kabila père et fils, et aujourd'hui du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président que nous avons dans l'historicité, dans la continuité de nos institutions, eh bien, toute l'architecture politique repose essentiellement sur cette pensée présidentialiste, comme on l'a dit, dans les systèmes d'Olivier Duhamel, repose donc l'éthos, ce que je peux utiliser comme constance dans la pratique, ces rôles éminents du président de la République.
De qui répond-il de ses actes et avec quelles sanctions?
Le président de la République répond directement de la nation. Et c'est ce qui est important à noter. Donc, élu par le peuple, c'est à ce peuple qui s'adresse. Et si c'est dit lorsque vous prenez sa posture vis-à-vis de l'Assemblée nationale, à qui il s'adresse, cette adresse du chef de l'État, eh bien, les présidents qui adressent les messages à la nation suivant l'article 77, il prononce un discours par une fois parlant devant l'Assemblée et le Sénat réunis en congrès, un discours sur l'état des nations. Et ces discours ne donnent pas lieu à un débat parce que c'est le peuple qui l'écoute. Et il est élu tous les 5 ans et il est donc redevable politiquement vis-à-vis de ce peuple. Et quand vous lisez aussi l'article 73 et 74, donc il est élu par l'ensemble de la nation et c'est devant cette nation qui prête serment devant la Cour constitutionnelle qui ne fait que prendre acte. Il dit qu'il va observer et défendre la Constitution et la loi de la République, de maintenir son indépendance encore, de sauvegarder l'unité, de ne se laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits et de consacrer toutes ses forces à la promotion du bien commun. Mais il n'est pas pour autant donc irresponsable. Il est responsable devant la nation, mais le président de la République peut être poursuivi devant la Cour constitutionnelle. Il est pénalement responsable devant la Cour constitutionnelle pour des cas, des infractions prévues par la Constitution. À cet effet, donc, si vous lisez notre Constitution, à partir des articles 162 et suivants, mais surtout 163, la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévues par la Constitution. Et la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Constitution précise ce qui est dit à l'article 64, c'est ce qu'on appelle la pénalisation du droit constitutionnel. Et il y a introduction du droit pénal en droit constitutionnel pour infliger un certain nombre d'infractions politiques, notamment la haute trahison, l'outrage au Parlement, l'atteinte à l'honneur, la probité, ainsi que le délit d'initié pour les autres infractions du bloc commun. Donc, au-delà de toutes les responsabilités qu'il a, il n'est pas, certes, politiquement responsable devant les institutions, mais il est devant le peuple qui lui a, il a mandaté. Et il a donc une responsabilité politique directe devant le peuple. Lorsque la nation ne fonctionne pas bien, c'est lui qui doit répondre politiquement. Et tous les 5 ans, il doit donc rendre compte. Il peut être sanctionné par le peuple, mais pénalement, son juge pénal, c'est la Cour constitutionnelle, conformément aux articles 164 qui parle de droit pénal de fond, c'est-à-dire des infractions qui concernent sa personne et le Premier ministre. Il y a aussi 165 qui précise alors les droits pénal de forme de poursuite présidentielle sur ces cas des infractions que nous avons évoquées. 164 précise donc le contenu de ces infractions, mais 168 et suivant précise la procédure de sa mise à l'accusation, qui doit d'abord être votée par deux tiers des membres du Congrès, ce qui n'est pas facile, mais qui est techniquement possible dans l'histoire des nations. Vous avez suivi au Brésil ou ailleurs, et même en France, là où nous avons pratiquement plus ou moins la même vision de la fonction présidentielle, ou aux États-Unis, ils ne sont pas pénalement, ils ne sont pas politiquement responsables devant les autres institutions, ils sont devant le peuple, mais pénalement.
Pourquoi l'appelle-t-on garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, symbole de l'unité nationale?
Mais si vous prenez, comme je vous ai dit, la totalité du pouvoir accordé au président, mais particulièrement l'article 69 qui dit que il est le chef de l'État. Donc le président de la République, chez nous, est le chef de l'État. Donc il est le magistrat suprême. Et à ce titre, il représente toute la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Et il est le veilleur principal de la Constitution. Et s'il laisse ou qu'il viole la Constitution, il répond de ses actes devant la Cour constitutionnelle, en suivant la procédure enclenchée qui passe par le Congrès dans l'ensemble du peuple. Et c'est lui qui assure le bon fonctionnement des institutions, la continuité de l'institution. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité, de la souveraineté. Il ne s'agit pas de vains mots. Comme il est dit, c'est lui le commandant suprême, dit l'article 63. Donc c'est lui qui met en œuvre. Il ne s'agit pas d'un commandement symbolique, il s'agit du vrai commandant de l'armée. Il est donc à la tête de la chaîne de mise en œuvre et aussi de la chaîne de commandement. C'est lui qui préside à cet effet le conseil suprême de la magistrature. C'est donc en tant que commandant suprême, cette chaîne passe par le haut commandement et même le commandant des opérations dépendent de lui. Donc la chaîne opérationnelle de notre armée, la chaîne de la mise en œuvre, donc de la préparation administrative, les deux chaînes se racontent dans la personne du chef de l'État.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi.
Quelques mots sur les élections avec profil idéal du président de la République.
Le profil idéal du chef de l'État, je crois que en faisant l'analyse de tout ce que nous avons dit sur les institutions de la République, mais aussi sur le mandat, sur le contenu, sur l'importance, nous devons élire un président qui, n'est-ce pas, doit réunir toutes ces conditions. Il doit être le vrai reflet de la nation, il doit être les symboles de notre vivre ensemble, il doit être un homme respectueux de la Constitution, un autre capable d'arbitrer, d'assurer le bon fonctionnement, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions. Il doit être le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire. Il doit être capable d'être le bouclier et la lance qui à la fois protège la nation de manière défensive, mais pourquoi pas de manière offensive. Nous avons dit au début de cet entretien que la centralité des institutions nationales repose sur le chef de l'État. Il est le socle de notre architecture institutionnelle. Donc, il doit être suffisamment fort, suffisamment bétonné pour être le fondement, être capable de soutenir, de tenir par sa posture le devenir de la nation. Voilà le portrait, il était, qu'on dit, robot de notre président. Donc il doit avoir l'onction de toute la nation, et c'est ça, de la transparence, et il doit y avoir donc une symbiose, une osmose, une symbolique d'unité entre cette nation qui doit se retrouver dans ce chef de l'État et ce chef de l'État qui doit communier à tout moment dans la projection de l'avenir, mais aussi dans notre passé. Il doit être donc l'alpha et l'oméga terrestre de l'avenir de notre nation. À la veille des élections, ce que je peux dire, c'est d'abord féliciter l'ensemble des institutions, y compris le chef de l'État, l'Assemblée, d'avoir placé ces processus au cœur de notre dynamique politique. Alors, nous remercions particulièrement la CENI, qui a pris le leadership de ces opérations. Et aujourd'hui, nous sommes à 3 jours, tout ce que nous pouvons espérer, qu'il y ait des élections libres, transparentes, mais surtout apaisées. Les élections sont des moments critiques, mais qui ne doivent pas être l'occasion pour déstructurer la nation. Au contraire, sont les moments où nous devons consolider le bien vivre ensemble, en désignant celui et ceux qui vont prendre en charge la gouvernance de l'État pendant les 5 ans. En ce qui concerne le président de la République, vous savez, quand vous lisez notre Constitution, la source de nos maux, c'est l'illégitimité de nos institutions. Il faut donc que les institutions soient l'émanation du peuple, et nous devons, après 4 cycles, arriver à la cohérence et à résoudre cette équation d'illégitimité en organisant de bonnes élections qui vont permettre donc des institutions d'être le reflet. On parle de la sincérité du vote, d'autres parlent en ce temps de la vérité des urnes. C'est pour qu'il y ait une congruence entre les présidents de la République et la volonté exprimée par le peuple. C'est la seule condition de l'efficacité des institutions et de l'efficacité de l'institution présidentielle, qui doit être le reflet et aussi bénéficier de l'onction populaire réelle pour être capable de conduire des institutions. Cette onction, c'est celle qui lubrifie les institutions, c'est cette onction qui dynamite les institutions, et c'est cette onction qui fera que nous aurons un pays plus beau qu'avant, un pays que nous devons bâtir ensemble.
Après le professeur Jacques Djoli, nous recevons maintenant le professeur Léopold Kondaloko, toujours sur le même sujet.
Merci de m'avoir encore associé à ce magazine 3 et citoyenneté d'aujourd'hui, et penché sur le thème la responsabilité constitutionnelle du président de la République. Moi, je crois que de tout le temps, la Constitution de la République protège la personne du président de la République, ainsi que ses actes, pourvu qu'ils soient posés dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Cette mise au point est importante pour comprendre les thèmes que vous avez proposés, parce que la Constitution précise que la personne du chef de l'État est inviolable et ses actes sont couverts par une irresponsabilité pénale. Il s'agit des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et de toute infraction aux lois pénales commises en dehors de ses fonctions. Lorsque vous parlez de la responsabilité constitutionnelle du président de la République, vous visez les prérogatives constitutionnelles du président de la République. Mais lorsque vous parlez de la responsabilité constitutionnelle du président de la République, là vous voyez comme si on voulait criminaliser pour voir les actes du président de la République sous l'angle pénal. Mais ici on devait voir les actes du président de la République, ses prérogatives telles que prévues par la Constitution. Et quand vous regardez sous cet angle-là, le président de la République a 3 prérogatives. Il a les prérogatives exécutives, il a les prérogatives législatives et les prérogatives dans les domaines judiciaires. C'est prévu dans la Constitution. Nous n'allons pas partir loin en dehors de tout texte. On ne peut pas faire une analyse diachronique à partir de la loi fondamentale de 1960, mais nous devons avoir une idée sur la Constitution actuelle du 18 février 2006 qui détermine les prérogatives du président de la République. Et ces prérogatives, nous les trouvons exactement l'article 69 de la Constitution qui dit ceci. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Et l'article 78 nous dit quoi de la Constitution? L'article 78 nous dit que le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Ce sont des fonctions exécutives. L'article 79 vous dit il convoque et préside les conseils de ministres. Ça, ce sont des prérogatives exécutive que dispose le président de la République. C'est pourquoi j'ai dit je ne peux pas parler l'aspect responsabilité constitutionnelle parce que cela renvoie à la responsabilité pénale, mais je préfère parler de prérogatives parce que ce sont les prérogatives que le chef de l'État, le président de la République doit avoir dans le domaine exécutif et il y en a autant dans la Constitution, mais c'est à ce titre exemplatif. Il y a des prérogatives législatives. Les prérogatives législatives, même si constitutionnellement, messieurs les journalistes, il faut retenir que le président de la République ne dispose pas d'initiative législative. Il ne peut pas y faire de projet de loi ni une proposition de loi comme le ferait le gouvernement ou un député, mais il n'a cessé d'intervenir dans ce domaine par la promulgation de lois votées par le Parlement. Lorsque la loi est votée, pour avoir une force exécutive, ça doit être promulgué par le président de la République et publié au journal officiel. Et puis, dans le domaine judiciaire, vous savez, on dit que le président de la République est le magistrat suprême. Donc, en bon droit, nécessairement, il aurait dû être le président du Conseil supérieur de la magistrature. À l'époque du président Mobutu, et où le ministre Singa Oudjou, qui était président du Conseil judiciaire, était d'office membre, était président du Conseil judiciaire à l'époque, aujourd'hui Conseil supérieur de la magistrature. Voilà la mise au point que j'ai voulu faire par rapport à la thématique que vous avez proposée de responsabilité constitutionnelle du président de la République. La première question, vous dites, que dit la loi fondamentale concernant les responsabilités, les charges qui incombent au président de la République?
Identité culturelle. La culture congolaise, dans sa diversité et sa richesse, a un rendez-vous sur Radio Capi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes, gastronomie, littérature, les us et coutumes, et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Et trouvez toute l'équipe tout le samedi à 8h30, le mardi à 14h15.
Droit et citoyenneté.
Léopold Kondaloko, que dit la loi fondamentale concernant les responsabilités, les charges qui incombent au président de la République?
Ici, vous cumulez les termes responsabilité et charge. Oui, les deux expressions peuvent être utilisées cumulativement, mais ici, vis-à-vis du président de la République, on ne peut pas utiliser le terme responsabilité. La responsabilité politique, le président de la République n'en a pas. Il n'a pas de responsabilité politique, il ne peut qu'avoir ça parce qu'il l'est pénalement irresponsable. Donc, il ne peut avoir que la responsabilité politique.
Or, conformément à la constitution actuelle, c'est le premier ministre qui est politiquement responsable devant le Parlement. Donc, le président de la République n'a aucune responsabilité politique devant le Parlement, mais c'est le premier ministre qui a cette charge-là de répondre politiquement devant le Parlement pour la gestion quotidienne qu'il assure au niveau de l'État. Alors, quant aux charges qui incombent le président de la République, moi je crois que les charges qui incombent le président de la République, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'article 69 et d'autres articles, parce qu'il investit le gouvernement et le vice-gouverneur, et le gouverneur, il a le pouvoir de nommer les différentes personnalités prévues à l'article 91 de la Constitution, et il nomme et révoque le magistrat. Les cas échéants, le relevé de leur fonction. Donc, vous voyez qu'il est le commandant suprême des forces armées. Tous ses attributs, toutes ses prérogatives, ce sont des charges qui incombent au président de la République en tant que les garants du bon fonctionnement des institutions. Et donc, par rapport à cette première question, dites les responsabilités et les charges qui incombent au président de la République, la Constitution, lorsque nous reviendrons sur les responsabilités. Là, on va parler de responsabilité pénale. Mais la responsabilité pénale, telle que prévue par la Constitution, nous allons voir, ce sont les articles 163, 164 et 165 de la Constitution qui parlent de la responsabilité pénale du président de la République. Et là, je crois qu'il est important que les gens comprennent que le président de la République n'est justiciable devant la Cour constitutionnelle, qui est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévues par la Constitution. Alors, de qui répond-il? De ces actes, avec quelles sanctions? Les sanctions, si le chef de l'État est poursuivi pénalement, l'article 164 dit quoi? La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques ou de trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. Elle est également compétente pour juger leur co-auteur et complice. C'est-à-dire ici, les sanctions vis-à-vis du président de la République, sauf lorsqu'il viole la Constitution intentionnellement les infractions prévues à l'article 165, délit d'initié, violation intentionnelle de la Constitution. Malheureusement que pour nous, moi, en tant qu'enseignant à l'université, je considère que ça, c'est un vœu pieux, parce que toutes ces infractions qu'on impute au président de la République aujourd'hui ne sont définies par aucune loi pénale. Il n'y a pas les éléments constitutifs de ces infractions qu'on poursuivrait le président de la République lorsque il y commettrait, par exemple, certains faits répréhensibles qui sont prévus dans la Constitution. Et d'ailleurs, là, je crois que il faut qu'on approfondisse l'article 89 de la Constitution. L'article 89 de la Constitution dit quoi, M. Jeff? L'article 89 de la Constitution dit ceci: les émoluments et la liste civile du président de la République. Je voudrais dire un mot par rapport à cet article. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens confondent et ne connaissent pas le fonctionnement des institutions de la République. S'agissant du fonctionnement, organisation et fonctionnement des services publics congolais non personnalisés, nous avons le premier service public de pouvoir central, c'est la présidence de la République. Et beaucoup de gens confondent le président de la République et la présidence de la République. Ce qu'il faut dire ici est que le président de la République, c'est une institution. Tandis que la présidence de la République, c'est un service public qui aide le chef de l'État dans l'exercice de ses fonctions. Et puis, en tant que service public, la présidence de la République a trois services dans son sein. Il y a le cabinet du président de la République, il y a l'état-major particulier du président de la République et la maison civile du président de la République, qui sont des services spécialisés de la présidence, en tant que service public de l'État. Et au niveau de la présidence, nous avons dit qu'il y a le cabinet du président de la République. Au sein du cabinet, vous avez la direction des cabinets, il y a le directeur des cabinets, le directeur des cabinets adjoints, il y a des conseillers spéciaux, il y a des collèges et des conseillers, il y a des services spécialisés, il y a des services du personnel, il y a deuxième service, l'état-major particulier du président de la République. C'est là, à la question qu'on parle lorsqu'il est le garant, il est le commandant suprême des forces armées, article 83 de la Constitution. Donc, conformément aux dispositions de l'article 83, alinéa 1 de la Constitution, le président de la République est le commandant suprême des forces armées. Il détient donc le commandement de l'armée pour défendre l'intégrité territoriale. Et après ce service de l'état-major particulier, nous avons le troisième service, la maison civile du président de la République. C'est ici que je voudrais faire un petit commentaire par rapport à ce que nous suivons à la télévision. Moi, en tant qu'enseignant des grands services publics, j'ai l'obligation de rétablir certaines vérités scientifiques, contrairement à ce qui est tordu, ce que nous voyons dire à la télévision. La maison civile du chef de l'État est un service public placé sous l'autorité directe du président de la République, chargé de la gestion de la liste civile du chef de l'État, de l'intendance et de la logistique, de résidence, des sites présidentiels privés ainsi que du service médical présidentiel et du secrétariat privé du chef de l'État. Prévu par l'article 89 de la Constitution de la République démocratique du Congo, la liste civile est une dotation budgétaire. Monsieur Jeff, il faut retenir, les gens doivent comprendre. Lorsqu'on parle de la liste civile, c'est une dotation budgétaire prévue annuellement par la loi de finances et destinée à couvrir le besoin du président de la République. Cette institution, nous l'avons tirée d'où? Elle est tirée, nous l'avons inspirée du droit belge, où elle est définie comme une somme forfaitaire versée au roi en vue de rémunérer les membres du personnel affecté à son service, de prélever ses émoluments, assurer l'entretien des palais, châteaux ou maisons mises à disposition, couvrir des dépenses d'accueil et de représentation qui lui incombent dans l'exercice de ses fonctions durant son règne. La liste civile congolaise est séparée des émoluments du chef de l'État qui en constitue une autre rubrique de la dotation dont il bénéficie. Donc, les gens doivent savoir que la maison civile des chefs de l'État n'est pas comme on le pense. C'est un service public qui dépend directement du président de la République. Celui qui nomme les responsables, celui qui gère sa liste, son salaire, ses émoluments. Il n'est pas question de tierces personnes. Gérée en régie indirecte comme service public, la maison civile du chef d'État fonctionne sous la responsabilité du chef de la maison civile nommé par le président de la République qui chapeaute l'administration de cette structure, coordonne l'ensemble de ses activités et en fait régulièrement rapport au chef de l'État. Si je voulais faire un petit commentaire par rapport à ça, parce que je vois il y a beaucoup de gens qui passent à la télévision, qui tordent les fonds d'institution et ces services publics de l'État en donnant des informations à scientifiques qui font croire à l'opinion publique que la maison civile des chefs de l'État est peut-être une institution qui est gérée par des tierces personnes. C'est uniquement par le président de la République lui-même qui le gère, qui gère ce service public et qui a la mainmise et la méchanceté. Le chef de la maison civile fait rapport directement au président.
Quelques mots sur les élections avec profil idéal du président de la République.
Et à la veille de l'élection présidentielle, un mot sur les élections. Quel est le profil idéal du futur président de la République? Moi, je crois, M. Jeff, car cette question de candidat idéal n'existe pas en démocratie. Ça, c'est de un. De deux, les élections ne résolvent jamais les problèmes d'un pays. Ce qui résout les problèmes d'un pays, c'est un leader qui a un programme axé sur le développement, sur la modernisation des infrastructures, sur l'amélioration des conditions de vie et de vie sociale de sa population. Un leader qui protège l'intégrité territoriale, qui met le moyen à la disposition de l'armée pour que l'armée puisse jouer son rôle régalien. Donc, c'est le candidat idéal qui a un programme acceptable. Ce n'est pas parce qu'on a des biceps, ce n'est pas parce qu'on a de l'argent, ce n'est pas parce qu'on est fort, ce n'est pas parce que... Non, c'est le programme d'un candidat qui prend l'initiative. Parce que le problème que nous avons au Congo, c'est un problème d'homme. Nous avons des lois, nous avons tout, mais nous n'avons pas d'hommes capables, de leaders capables de mobiliser les énergies nécessaires pour le développement de notre pays. Ce que moi je veux souhaiter est de demander au peuple congolais, tout celui qui a été enrôlé, d'aller voter, de ne pas s'abstenir, rester à la maison, parce que si vous n'allez pas voter, la frange des gens qui vont voter, ils vont choisir une personne qui n'est pas de votre choix. Malheureusement, si vous auriez voté, cette personne ne serait pas élue. Mais parce que vous êtes abstenu, moi je demande à tous les Congolais en âge de voter, qui ont été enrôlés, qui ont les cartes d'électeur, d'aller voter le 20 décembre. Un président de la République que vous estimez capable d'apporter, de réaliser les désiderata que vous avez besoin dans votre vie, que le peuple congolais a besoin. Un président de la République capable d'écouter et de canaliser les aspirations populaires, de voter des députés capables de voter de lois républicaines et non pas créer de nouveaux riches au Parlement, des gens qui sont pour, qui sont contre et qui ne voient que leurs intérêts, qui ne votent le budget de l'État que pour leurs intérêts. Voter des députés, choisir des députés républicains, des hommes et des femmes capables d'aider notre pays à décoller. C'est le mot que moi je peux donner, souhaiter à tous les Congolais à la veille de l'élection de faire un vote utile au lieu de faire un vote inutile.
You always have me beg for more. I'm on my knees ready to go. I promise I will be your own
in every way.
Baby, your satisfaction
is my life mission.
We'll never leave, that's a guarantee. You're my symphony.
Tell me, what am I to do with all the love that I have for you? This kind of love was meant for two. I'm gonna rock your body. Tell me, what am I to do with all the love that I have for you? This kind of love was meant for two. I'm gonna rock your body. Allow your clothes to hit the floor. No turning back, I've closed the door. I have no doubt your heart is mine. I feel your love when I am close. I need your touch, your kiss, my dose. You are my queen in my game of thrones. With all the love that I have for you, this kind of love was meant for two. I'm gonna rock your body. Tell me, what am I to do with all the love that I have for you? This kind of love was meant for two. I'm gonna rock your body. I'm gonna rock your body. Rock your body. Show me.
les ressens. Ton cœur est mien, c'est le destin. Et ton amour qu'à l'océan. Tu m'assassines de plaisir avec tendresse et affection. Ton amour est un grand poison qui me rend fou.
Without the love that I have for you, this kind of love was meant for two. I'm gonna rock your body. Tell me what am I to do? Without the love that I have for you, this kind of love was meant for two. I'm gonna rock your body. Tell me what am I to do? Without the love that I have for you, this kind of love was meant for two. I'm gonna rock your body.
La responsabilité constitutionnelle du président de la République. Parfois, nous entendons à la cité les gens accuser le président de la République de la détérioration de la voirie urbaine, de la surenchère des prix sur le marché, de l'incivisme de certains citoyens, les hors-la-loi, qui souvent se permettent tout en toute impunité dans un État-pays géré ou gouverné. Et on se demande qui du président de la République et du premier ministre gère le pays, qui gouverne. Et dans la seconde partie de ce magazine, nous recevons quelques députés nationaux et avocats qui s'expriment sur l'irresponsabilité constitutionnelle et les prérogatives du président de la République par rapport au premier ministre. Est-ce que le chef de l'État est irresponsable de la gestion de la chose publique et pourquoi? Pourquoi doit-on lui demander des comptes et non au premier ministre? Suivons les explications des députés nationaux José Ngbanda, Nelly Mwinga et de l'avocat Ernest Mose Pomiza.
Bonjour, Monsieur Jeff. Je pense que la population a raison, mais en même temps, elle a aussi tort. Raison pourquoi? Parce que ils savent qu'ils ont donné mandat au président de la République. Et donc, le premier ministre n'a pas été devant la population pour solliciter leur mandat. C'est le chef de l'État. Et donc, en principe, il doit rendre compte à la population. S'il y a un problème qui ne va pas, la population doit, en principe, en appeler au chef de l'État à qui ils ont donné mandat. Ils ont raison aussi parce que lorsque vous voyez dans la réalité des faits, c'est le président de la République qui instruit pratiquement le gouvernement. Et le gouvernement, en somme, exécute la politique du chef de l'État. Et vous êtes témoin quand vous voyez, par exemple, le premier ministre actuel, dans beaucoup de choses, il ne sait pas se mouvoir parce que il doit attendre des orientations, des instructions du chef de l'État. Et le chef de l'État peut ne pas, d'ailleurs, dans la plupart des cas, être d'accord sur beaucoup de choses et le Premier ministre est bloqué, ne peut rien faire parce qu'il doit recevoir les instructions du chef de l'État. Et donc, ce n'est que normal que la population puisse réclamer des changements, des choses au président de la République. Mais en même temps, la population a tort. Pourquoi? Parce que la Constitution ne dit pas que c'est le président de la République qui doit rendre compte devant la représentation nationale, parce que c'est plutôt le premier ministre à qui l'Assemblée nationale donne confiance, qui doit répondre devant le Parlement, ou particulièrement devant l'Assemblée nationale. Donc, par le fait de la Constitution, la population a tort, donc ils ne peuvent pas réclamer des choses au président de la République, mais plutôt au Premier ministre qui lui rend compte devant le Parlement de toutes ses actions. Mais je pense que les choses doivent plutôt changer. Les choses doivent changer parce que on a voulu épargner le président de la République des actions parlementaires contre lui, alors qu'en réalité c'est lui qui devait répondre. Et donc lorsque nous voyons la réalité des choses dans notre pays, c'est le président de la République. Il règne et gouverne. Et donc c'est le président de la République qui doit normalement être responsable devant le Parlement et devant le peuple congolais. Donc c'est ça un peu mon point de vue.
Député Nelly Mwinga.
La problématique de la responsabilité des gouverneurs, cas de responsabilité constitutionnelle du président de la République. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que la Constitution dit sur le président de la République et sur le gouvernement. Effectivement, la population ne comprend pas pourquoi le président de la République, qui est pourtant élu au suffrage universel direct, ne répond pas de ses actes devant le Parlement qui est la représentation du peuple comme c'est le cas pour le gouvernement.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi.
La problématique de la responsabilité constitutionnelle du président de la République. Député Nelly Mwinga.
Chaque institution a ses prérogatives, ses attributions et ses compétences que la Constitution lui donne. Pour le président de la République, l'article 69 dit « Il est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier du pouvoir public et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et des accords internationaux. Pour le gouvernement de son côté, la Constitution aux articles 90 et 91 renseigne entre autres que le gouvernement est composé du Premier ministre, des ministres, des vice-ministres, les cas échéant des ministres délégués. Il est dirigé par le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Et lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement. Le gouvernement définit en concertation, je souligne bien, ça ce n'est pas moi, c'est la Constitution, en concertation avec le président de la République, la politique de la nation et en assume la responsabilité. Le gouvernement conduit la politique de la nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale. Cette présentation de ces deux institutions montre que le président de la République s'occupe seulement de ce qui est de la politique de la nation, tandis que le gouvernement, lui, s'occupe de l'exécution de cette politique conformément au programme que le Premier ministre a élaboré en concertation avec le président de la République. L'expression « concertation », je veux insister ici, veut dire plutôt que le président de la République et le Premier ministre discutent ensemble et dégagent un point de vue commun du programme. C'est le Premier ministre qui présente le programme à l'Assemblée nationale. Si les députés nationaux approuvent ce programme, on investit son gouvernement qui alors peut commencer son travail. Puisque c'est l'Assemblée nationale qui investit le gouvernement, donc c'est devant elle que le gouvernement est responsable. C'est comme cela que la Constitution a permis au Parlement de contrôler l'activité du gouvernement et le président de la République dans tout ça. Je revenais de l'épingler qu'il est élu au suffrage universel, alors c'est là que se posent beaucoup de questions. Le président de la République n'exécute pas le programme du gouvernement, donc il n'est pas responsable devant le Parlement. Mais cela ne veut pas dire qu'il peut faire n'importe quoi. Il est responsable pénalement. Je veux me redire, le président de la République n'exécute pas le programme du gouvernement. Donc, il n'est pas responsable devant le Parlement, mais cela ne veut pas dire qu'il peut faire n'importe quoi. Il est responsable pénalement. Je crois que je me suis fait comprendre. Il est responsable pénalement quand il commet les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que le délit d'initié ou les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Il sera alors poursuivi devant la Cour constitutionnelle. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation sont votées à la majorité de 2/3 de membres du Parlement composant le Congrès. En cas de condamnation, il est déchu de ses charges. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle. Voilà en gros ce que je peux dire.
L'avocat Ernest Monsepomisa.
Je voudrais ici, par une petite analyse, dire que c'est à tort que la population vise principalement le président lorsque les routes sont délabrées et pour toute autre dégradation de la vie sociale, notamment la pénurie d'eau, d'électricité, problème d'accès à l'internet, à l'éducation de base, hygiène et consorts. Étant donné que c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation et en assume la responsabilité au regard de l'article 91 de la Constitution, et le gouvernement dirigé par le Premier ministre est responsable devant l'Assemblée nationale, conformément à l'article 91, alinéa 4 de la Constitution. Cependant, il existe dans la conscience collective de l'opinion publique la conception de l'État-providence. La notion d'État-providence désigne l'ensemble des interventions de l'État dans les domaines sociaux qui visent à garantir un niveau minimum de bien-être à l'ensemble de la population, en particulier à travers un système étendu de protection sociale. Ce qui en découle est que le chef de l'État étant la tête du pays est le premier à être considéré comme responsable de la population et de la bonne marche du pays. Je pourrais ajouter un autre aspect dans le sens que le président de la République est élu au suffrage universel conformément à l'article 70 de la Constitution. Le suffrage universel qui consiste en la connaissance du droit de vote à l'ensemble des citoyens, il est l'expression de la souveraineté populaire et de la volonté générale dans un régime démocratique. De ce fait, le chef de l'État n'est responsable que devant le peuple, à la différence du gouvernement qui est responsable politiquement devant l'Assemblée nationale. L'article 69 dit sur ce point au président de la République, son rôle du chef de l'État, il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution, il en assure l'arbitrage et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Dans son serment, à l'entrée du pouvoir, le chef de l'État consacre toutes ses forces à la promotion du bien commun et de la paix et de remplir loyalement et en toute fidélité les hautes fonctions qui lui sont confiées. Donc, de cette petite analyse, je dirais qu'il est légitime pour la population de se plaindre contre le chef de l'État ou de faire des critiques à l'égard du président de la République s'il ne s'identifie pas aux promesses, aux différentes promesses faites par celui-ci. Donc, quand les choses ne marchent pas, la population a suffisamment le droit de se plaindre contre le chef de l'État parce que c'est lui qui est à la tête, et c'est lui qui est le garant et c'est lui qui est de toutes les façons politiquement, juridiquement responsable de tout ce qui peut y arriver, tant bien que mal, soit positivement ou négativement à la population. Donc c'est normal que les gens, quand ça ne va pas, crient au chef de l'État et c'est normal que quand les choses vont bien, ils disent Félicitations, chef de l'État.
De la responsabilité aux charges constitutionnelles du président de la République, nous vous en avons parlé dans le magazine de promotion de vos droits et devoirs. Droits et citoyenneté est à présent terminé. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre et de rester toujours branchés sous la fréquence de la paix.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.